BPM, élection départementale 2021.
Bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Les élections départementales auront lieu le 20 et 27 juin. Cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les cantons de Limay, Bonnières et Mantes-la-Jolie sont à l'honneur aujourd'hui. Nous continuons à nous intéresser au canton de Limay. Nous accueillons Alexandra Char en binôme avec Isabelle Silvestrini, candidat de la liste soutenue par les Patriotes. Alexandre Achard, vous êtes étudiant en sciences politiques à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour.
Bonjour.
Alors, durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets de compétences du département. Tout d'abord, en quelques secondes, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de vous présenter ?
Alors, le parti qui est un parti très récent, donc créé en 2017, donc pour l'instant, il a eu deux élections, c'est les élections européennes et les élections municipales, en sachant que les élections municipales, c'était assez particulier dans un contexte de pandémie. Donc voilà, maintenant que le mouvement est un peu plus connu, on se lance cette fois-ci au départemental. Donc le parti a besoin de candidats, donc moi c'est avec plaisir que je me suis proposé.
Alors pour commencer, nous allons aborder une des compétences du conseil départemental, le sanitaire et le social. Dans votre programme, vous parlez beaucoup de la situation actuelle liée à la crise sanitaire et vous voulez faire sortir le département des restrictions sanitaires. Pourquoi ?
Alors nous, on est très en opposition avec tout ce qui est fait pour l'instant et ce qui a été fait niveau sanitaire. Nous, on pense qu'une politique sanitaire, c'est pas enfermer tout le monde chez soi. Il fallait tester les gens, les isoler, ceux qui sont malades. Il fallait autoriser les traitements, liberté de prescrire. Si un médecin a envie de vous prescrire un médicament, c'est pas à l'État, c'est pas Olivier Véran de vous dire ce que vous devez prendre et ne pas prendre, quoi. C'est vous et votre médecin. C'est comme ça que ça marche. Et donc, nous, on pense qu'elles sont disproportionnées et qu'elles sont inefficaces.
Il y avait pas de médicaments hein, pour la Covid.
Après, moi, je suis pas médecin. Laissons les médecins choisir.
Bah, c'est ce qu'ils disent.
Ah, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, je...
Bah, c'est ce qu'ils disaient à l'époque, hein.
Après, c'est évolué. Moi, mon médecin, il me dit, moi, quand je suis malade, je vais voir mon médecin. Mon médecin, il me dit, prenez ça, je prends ça. Moi, je dis pas, oui, non, mais ça marche pas.
Parce qu'on a entendu.
J'ai lu ça dans The Lancet. Non, moi, je prends ce que mon médecin, il me demande de prendre. Et enfin, voilà, je suis pas médecin. Je m'invente pas des professions que je n'ai pas.
Mais vous êtes, vous êtes, même contre, toutes les restrictions, le pass sanitaire, vous êtes également pour réouvrir tout ce qui a été fermé tout de suite. Est-ce que c'est pas un peu risqué ?
Non, ça fait maintenant 14 mois de restrictions sanitaires. Toutes ces mesures de confinement, elles sont très peu efficaces. On a vu aux États-Unis, on a comparé la première moitié des États qui...
Ça baisse quand même.
Oui.
Quand on confine, il y a un niveau de contamination... Les chiffres disent que après le confinement, il y en a moins.
Ah, il y a différentes interprétations possibles. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'été qui fait baisser les contaminations. Au Texas, récemment, c'était il y a un mois et demi, deux mois, ils ont tout ouvert, plus de masque, plus rien, plus aucune mesure, et ça baisse.
Ils sont vaccinés peut-être.
Ils sont pas tant que ça vaccinés. Et puis ils sont vaccinés dans l'autre état et ça baisse beaucoup moins.
Non, mais au mois d'octobre, quand on était confinés,
ouais.
En été.
Ouais. Enfin, ouais, c'est vrai.
Non mais octobre-novembre, ça a quand même baissé les chiffres.
Mais moi, je demande à ce qu'on mette des études très sérieuses. Enfin, il y a des études très sérieuses qui disent que les confinements ne marchent pas. Notamment l'étude de John Ioannidis, qui est chercheur en Floride, il me semble. Il a fait des études, il a compilé des résultats. Il a dit, bon, les confinements, ça marche quasiment pas, quoi. Puisque le problème quand on est confiné, c'est que certes, on diminue les contaminations à l'extérieur, mais on les augmente à l'intérieur. Si vous êtes en famille et qu'il y en a un qui est malade, bah, il contamine tous les autres, quoi.
Oui, mais enfin, le soir, je rentre chez moi, je suis en famille. Si je sors, je contamine des gens, plus ma famille à moi.
Ouais, mais si vous restez trop longtemps enfermé, vous avez plus de chances de contaminer votre famille. Et puis, toutes ces mesures, au final, on va tous l'attraper un jour.
Et peut-être pas, vous êtes fait vacciner. Non, vous n'avez pas encore l'âge. Si, vous avez l'âge maintenant, mais...
Je resterai sur le secret médical, je ne dirai pas si je suis vacciné ou non.
D'accord. Est-ce que vous voulez vous faire vacciner ?
Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas.
Bah, alors, donc, vous voulez tout réouvrir tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui ont rouvert quand même, là.
Oui, c'est vrai, mais avec des protocoles sanitaires très lourds, à tel point que y a certains bars qu'on décidé qu'ils refermaient. Les protocoles sont tellement lourds en termes de distanciation sociale, les masques, tout ça, qu'au final, y en a qui disent, bon, on ne peut pas être rentable dans ces conditions. Donc ça fait 14 mois de mesures sanitaires. Est-ce que ça a vraiment évité des morts, toutes ces mesures ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, ça fait énormément de maladies mentales, ça fait énormément de chômage. tout ça, ça va aussi faire des morts. Les gens ont pris du poids avec le stress et tout. Tout ça, ça amène une diminution d'espérance de vie. Donc nous, on pense qu'à un moment, voilà, à un moment, faut arrêter, faut revenir aux choses sérieuses. Si les gens sont malades, on les isole, on les traite, mais c'est tout.
Alors, on va passer maintenant à l'enseignement et notamment au collège. Vous souhaitez mettre fin à la numérisation et notamment aux tablettes distribuées par le département.
Effectivement.
Mais alors, vous craignez pas justement que ça constitue un handicap pour les élèves dans leur vie future, parce qu'on est quand même dans un monde hyper numérique qui est de plus en plus indispensable. On a parlé de la fracture numérique justement pendant le premier confinement.
Vous avez raison, on a parlé de la fracture numérique. Je pense que les enfants sont déjà souvent en contact quand même avec des écrans. Ils ont un smartphone généralement, ils ont des tablettes chez eux. Donc je pense qu'ils vont pas être décrochés à ce niveau-là. Ensuite, les études montrent pas tellement qu'on apprend mieux sur tablette. Au contraire, moi j'ai plutôt lu que la manière dont on apprend le mieux, c'est quand on est sur notre cahier avec un stylo, il y a aucune distraction. Et en plus, les écrans, on sait que voilà, si on regarde des écrans toute la journée, à force, ça peut être mauvais pour la rétine. Enfin, c'est pas très mauvais, mais il faut quand même y aller avec modération, quoi. Si on passe 7 heures par jour, à un moment, ça va avoir des conséquences.
Mais je crois que c'est peut-être les parents, hein, de s'occuper de leurs enfants.
Ah ouais, certes, mais on sait que c'est pas toujours fait. Et donc voilà, à l'école, quand même, au moins qu'ils aient pas d'écran. Et dans le terme éducatif, je suis vraiment très sceptique. Les manuels, ça marche très bien. Et en plus, ces tablettes, généralement, c'est des iPads. Donc, c'est fabriqué en Chine. Donc, déjà, c'est pas des emplois français. Ensuite, c'est très polluant de fabriquer.
Vous savez, vous parlez dans un truc qui est pas français. C'est un micro qui doit pas être fabriqué en France.
Eh ben, avec nous, on relancera l'industrie des microphones. Je suis sûr qu'on en est capable en France. Il y a aucun problème. Donc, des choses qui sont pas fabriquées en France. Qui polluent énormément, parce qu'il y a énormément de terres rares dedans. Enfin, faut creuser des mines immenses pour avoir les matériaux précis, donc ça pollue beaucoup. Et en plus, ça coûte quand même un certain prix, les tablettes. Enfin, est-ce que ça coûte plus cher que les manuels? Donc on pourrait peut-être faire d'autres choses de cet argent plutôt que d'acheter des tablettes tactiles. Moi, j'ai juste l'impression que le département veut montrer qu'il est dans le progrès numérique et tout, mais on est un peu dans la numérisation, dans la digitalisation à outrance. À un moment, on n'est pas né avec un écran dans le cerveau, et voilà, et c'est très bien comme ça.
Vous avez un smartphone?
J'ai un smartphone,
vous
oui.
Vous avez une tablette?
J'ai pas de tablette, mais voilà, mon
vous
smartphone...
Vous avez un ordinateur?
J'ai un ordinateur.
Il est portable?
Il est portable, ouais.
Vous le prenez pour aller à l'école?
Pas toujours, ça peut paraître
en
bizarre.
En cours, parce que vous n'avez plus à l'école.
Mais... Ça peut paraître bizarre, mais des fois je le prends, parce que je sais que je vais en avoir besoin pour remettre des documents que j'ai enregistrés dessus. Mais quand je suis pas sûr d'en avoir besoin, je prends vraiment une feuille, un stylo, ma pochette, hein.
D'accord, mais vous l'utilisez de temps en temps quand même.
De temps en temps, c'est vrai que je l'utilise.
D'accord.
Mais c'est vrai, vous marquez un point. Mais voilà, le collège, c'est encore plus tôt. Voilà, j'utilise aussi les feuilles et ça marche très bien. En plus, ça coûte pas cher. Voilà.
C'est vrai que ça coûte pas cher. Dans le domaine des collèges, vous voudriez mettre en place les cantines, dans les cantines, de la nourriture bio et locale. Alors, ça existe un petit peu quand même. Déjà, mais vous voulez le démocratiser. Comment on s'y prend?
Très simple. Le département, donc, il est en gestion de la cantine. On dit, nous, on va signer un organisme uniquement qui nous met très rapidement. On regardera qui a les meilleures propositions. Qui nous met très rapidement au bio. Ce sera sur le cahier des charges. Et donc, il y a tout un tas d'organismes qui vont se proposer. Et on verra celui qui nous dit, ouais, nous, on termine à 60% de bio à la fin du mandat. Enfin, je donne un chiffre comme ça, j'ai pas exactement le dossier. Bah, celui qui sera le plus ambitieux, on lui dira, bah, ok, on vous signe vous. Bon, on regardera évidemment le prix. Et on lui dit, bah, on vous signe vous. Voilà, on cahier des charges, comment on dit, appel d'offres. Voilà, appel d'offres avec comme critère l'agriculture biologique.
Et local.
Et local, évidemment, parce que on va pas. Si on fait des choses pour l'environnement, pour la biodiversité, avec le local, c'est dommage si derrière ça pollue, parce qu'il faut faire des trajets immenses. On a des producteurs locaux, pourquoi acheter à 200 km ce qu'il y a à 5 km, quoi.
Après, on n'a pas forcément des races bovines dans le département des Yvelines.
C'est vrai, mais alors on ira dans l'heure, voilà, on n'ira pas chercher trop loin, quoi. Plus ce sera prêt, mieux ce sera.
Alors, vous souhaitez également privilégier les subventions à destination des entreprises locales. Quels seraient vos critères pour en bénéficier?
Regardons l'entreprise, c'est simple, on dira est-ce que c'est une entreprise qui emploie beaucoup de monde? Est-ce qu'ils emploient des gens qui sont sur le territoire? Est-ce que leur activité est bonne pour l'environnement ou bonne pour le social? On essaiera de juger comme ça. Et voilà, est-ce que c'est une petite entreprise? Est-ce que c'est pas... Je sais que par exemple, Amazon, dans certains, quand ils ont installé des entrepôts, des fois ils ont eu des subventions pour installer leurs entrepôts. Puisque les mairies, les conseils départementaux font ça, ils disent chouette, ça va faire plein d'emplois. Mais voilà, nous on va pas donner de l'argent à Amazon à un moment. Je pense que Jeff Bezos a suffisamment d'argent. On va plutôt privilégier les petites entreprises qui ont vraiment besoin de notre aide.
Et l'environnement, ça sera important pour vous ?
Je pense qu'en réalité, on parle d'écologistes, non écologistes, on est tous écologistes. Enfin, quand on regarde les chiffres de la biodiversité, je crois que, par exemple, les papillons, je crois qu'on est à moins 50% en 10 ans. Enfin, c'est hallucinant. Vous qui êtes un peu plus âgé que moi, quand vous étiez jeune, il y avait des filets à papillons.
Oui.
Il y avait des papillons qui volaient. Maintenant, il n'y a plus de filets à papillons. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de papillons. On fait tellement des champs de monoculture uniforme avec des pesticides, il n'y a plus aucun animal qui peut survivre là-dedans, quoi. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des plantes OGM, on les plante, elles sont génétiquement modifiées pour résister au glyphosate, qui est un pesticide, on balance du glyphosate, il n'y a plus rien de vivant derrière dans le sol, c'est pas sain, du coup, voilà, les insectes, ils disparaissent, les papillons, enfin, les insectes disparaissent, à un moment, ça peut plus suffire, le réchauffement climatique, ça va être bon pour personne. Surtout pas pour les pays africains. Donc nous, on est contre l'immigration. Donc bon, si c'est la famine en Afrique, c'est pas forcément, ça nous arrange pas tellement. Donc voilà, stop le réchauffement climatique, stop les monocultures qui détruisent notre biodiversité. Nous, on est patriotes, on aime la France, on aime sa culture, on aime son histoire, mais on aime aussi, voilà, sa biodiversité. On trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable de voir les petits pavillons des oiseaux que la mort, quoi, le calme plat.
En matière de culture, les candidats des patriotes veulent, je cite, se battre pour le patrimoine local, les églises, les monuments historiques.
Oui, bah ça fait partie des compétences du département. Des fois, on peut
restaurer. C'est déjà le cas, hein, je crois, non ?
Oui, bah j'ai pas tout suivi de très près, mais en tout cas, sachez que nous, on délaissera pas les petites églises, les petits patrimoines. On adore l'histoire de France. On adore notre pays, donc on laissera rien à l'abandon. Surtout que les églises, il y en a énormément qui brûlent, surtout en ce moment. Ça a toujours été le cas, mais maintenant, on s'est vraiment mis en lumière. Donc voilà, plutôt que de dépenser dans les tablettes, nous, on dépensera.
Mais c'est le cas, hein, déjà. Enfin, le département
tant mieux.
Co-finance.
Tant mieux, et bah
alors. Des aides pour les communes rurales.
Tant mieux, et bah on continuera.
Alors, un problème que vous pointez du doigt, c'est la disparition progressive des services publics dans les communes rurales. Comment on fait pour remettre le service public ? Vous êtes élu demain conseiller départemental. Qu'est-ce que vous pourrez faire pour remettre les services publics ?
Bah, on finance les services publics. On a en charge.
C'est pas une compétence.
On a en charge tous les établissements sociaux, médicaux. On appelle ça ESM ou oui. ESMS, EHPAD, etc. C'est du service public. Donc tout ce qui est aide à la petite enfance, tout ça, c'est des compétences du département. Avec nous, ce sera pas délaissé. Je crois que j'ai plus le nom exact, mais pour les aides à l'enfance en danger, je crois que les financements ont un peu baissé. Voilà, nous on pense que c'est important. L'argent qu'on met là-dedans, c'est pas de l'argent perdu. Parce que si on s'occupe bien d'un enfant ou d'un jeune qui est en difficulté, c'est de l'argent qui est gagné plus tard, parce que c'est quelqu'un qui sera plus intégré, qui commettra moins de délits. Faut pas avoir peur. Pareil, les personnes qui ont des troubles psychiques, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que les CMP, c'est aussi les compétences du département. Voilà, faut vraiment prendre en charge les gens. Certes, ça coûte de l'argent sur le moment, mais c'est mieux pour tout le monde. On ne peut pas laisser les gens à l'abandon, sinon ils vont dériver. C'est mauvais pour la société. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de financer les services publics. Nous, les budgets des établissements médico-sociaux, pas de problème, on financera.
Dernière question, il nous reste une minute. Que ferez-vous si vous êtes élu pour favoriser l'emploi local ?
Eh bien, quand on aura des projets, des entreprises qui nous demanderont des subventions pour s'installer, on leur dira, d'accord, on veut savoir tout de votre projet. Précisément, on inspectera en détail leurs propositions. Et on leur dira, d'accord, vous allez faire combien d'emplois locaux ? Et on leur dira...
Bah, s'ils veulent s'installer dans le canton, ils vont faire des emplois locaux.
Ah, c'est sûr. Pas, on peut vérifier. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent... dire, tiens, on va importer de là. Non, on va dire, non, ce serait mieux si vous preniez plutôt ce fournisseur et tout. Puis, il y a certaines entreprises qui vont avoir un potentiel d'emploi plus élevé que d'autres. Donc voilà, on essaiera par les subventions de vraiment amener nos petites entreprises. Et après nous, à l'échelle nationale, on est pour la sortie de l'euro pour retrouver de la compétitivité, mais ça ne peut pas le faire à l'échelle locale. Mais si vous votez, sachez que voilà, vous nous donnez aussi un élan de la visibilité pour les élections présidentielles à venir.
Alexandre Achard, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette émission sera rediffusée à midi et 18h, à 8h30. Nous recevrons Thomas Halberstadt, candidat sans étiquette pour le canton de Limay. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.